Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 11. Depuis la mort du chérubin, la Frochard ne vivait, avons-nous dit, que du produit du travail du rémouleur. Elle ne quittait plus le taudis pour aller mendier, abîmée dans son désespoir, qui ne lui laissait de répit que lorsque l'ivresse s'emparait d'elle, quand elle avait vidé la bouteille d'alcool qu'elle obligeait Pierre à lui apporter chaque soir. Dans l'ignoble nature de cette mégère, un seul sentiment humain avait trouvé à s'égarer au milieu des vices immondes. Cette louve avait aimé son petit et elle ne pouvait se consoler de l'avoir perdu à tout jamais. C'était de cette plaie qu'elle avait toujours béante au cœur que la misérable fut morte infailliblement si un terrible accident n'était survenu abréger ses jours que l'habitude de l'ivrognerie consumait lentement. Dans son ivresse, la Frochard avait fréquemment des accès de délirium très mince. Elle se trouvait alors subitement hantée par de terribles hallucinations. Parfois, elle évoquait toute sa vie passée et l'on aurait pu l'entendre alors parler à un être invisible, comme autrefois elle parlait à Frochard le supplicié, pour comploter avec lui les crimes à commettre. Celui qui aurait pu assister à ces scènes eut entendu d'étranges révélations quand la Frochard, se figurant revoir le supplice de son homme, entrait dans tous les détails de cette effroyable mort et interpellait le bourreau comme si elle se fût réellement trouvée à ce moment devant le corps broyé et les chairs pantelantes du supplicié. Puis, dans son délire, sa pensée vagabondait d'une façon vertigineuse. Elle changeait de sujet d'imprécation, comme si un autre tableau eût, devant ses regards avinés, succédé à celui de l'échafaud en place de Grève. La mégère s'écriait alors « Tu chanteras, vipère! Je veux que tu roucoules, guenille! Le chérubin a besoin d'argent, il lui en faut! Tu chanteras! Je le veux !» Et les mains en avant, les doigts crispés, la Frochard fourrageait dans le vide, comme si elle eût déchiqueté les chairs de la pauvre aveugle tombée dans ses griffes. Dans cette lutte contre une vision, la veuve du supplicié avait de singulières fantaisies d'ivrogne. Après avoir vociféré pendant quelque temps, on la voyait tout à coup prendre la bouteille, dans laquelle était fiché le bout de chandelle de résine, se hisser en titubant jusqu'en haut du petit escalier de bois et coller l'oreille à la porte du grenier, comme autrefois, lorsqu'elle allait écouter les gémissements étouffés de l'aveugle et jouir des souffrances auxquelles elle avait condamné la malheureuse enfant. Et le sommeil de l'ivresse s'emparant d'elle, elle s'affaissait bientôt, roulant les quelques marches jusqu'en bas, où elle restait gisante sur le carreau souillé du taudis. C'était là que le plus souvent, Pierre, en rentrant de sa journée de travail, la trouvait anéantie après une crise violente et plongée dans le lourd sommeil provoqué par l'alcool. Le malheureux garçon en était même arrivé à souhaiter qu'il en fût chaque jour de même, car lorsque par hasard il lui arrivait de rentrer avant que la mégère ne fût complètement intoxiquée, il lui fallait subir de telles scènes, accepter tant d'injures et s'entendre si souvent traiter d'assassin que le pauvre diable se réfugiait dans le grenier, jadis habité par sa chère petite aveugle. C'était surtout depuis que le rémouleur avait découvert la maison où Louise avait reçu l'hospitalité qu'il était devenu encore plus indifférent aux injures et aux mauvais traitements qu'il subissait de la part de l'ancienne mendiante. Il semblait au pauvre garçon qu'il pouvait tout supporter maintenant, avec patience, que c'était une bien grande compensation de savoir qu'il apercevrait chaque jour sa chère aveugle et qu'il aurait alors une consolation suffisante à tous ses tourments. Disons aussi que de jour en jour, Pierre retardait l'heure de retour au logis, parce qu'il ne pouvait quitter qu'à regret l'hôtel de Lignières. Souvent, il n'arrivait que lorsque l'alcool, ayant produit largement ses effets sur le cerveau de la Frochard, celle-ci gisait inerte sur le sol à côté de la bouteille vide. Or, il y avait déjà plusieurs jours que le rémouleur accomplissait devant l'hôtel de Lignières ce qu'il considérait comme un pèlerinage en l'honneur de la jeune aveugle, devenue son idole, quand, en rentrant un soir, le malheureux garçon reconnut dès le seuil que la mégère subissait une crise de délirium très mince, la plus violente assurément dont elle eût encore donné à son fils l'effrayant spectacle. L'ignoble créature était debout, en haillons. Dans son délire, elle s'était crue poursuivie par les agents de la prévôté, et tout en simulant une lutte acharnée contre eux, Elle avait mis en loques les misérables hardes dont elle se vêtissait d'habitude pour ses tournées d'autrefois. La Frochard semblait agitée par d'effroyables mouvements convulsifs. Il semblait que l'alcool qui la consumait intérieurement eût injecté du feu dans ses veines et que tout son sang mis en ébullition lui eût fait éprouver la sensation de cette torture trouvée par l'Inquisition et qui consistait à faire couler du plomb fondu sous la peau incisée des patients. Hideux à voir, son visage suant la transpiration gluante que produit l'abus des alcools sophistiqués de vitriol, présentait tous les symptômes de la rage arrivée à la période la plus aiguë. La misérable créature se livrait contre elle-même et avec un acharnement inouï à des violences telles que le sang coulait dans les sillons que ses ongles crochus creusaient dans ses chairs. Elle avait des regards de fauve. Ses pupilles rendues ardentes par l'ivresse vacillaient sans discontinuer au milieu des paupières enfoncées sous l'arcade sourcilière. Et pendant que sa rage se déchaînait ainsi contre elle-même, la Frochard hurlait des cris de bête féroce et vociférait de terribles menaces contre des ennemis imaginaires. Tout à coup, comme Pierre apparaissait devant elle, dans l'entrebâillement de la porte, la misérable voulut s'élancer sur lui. Mais il sembla alors que ses pieds se fussent subitement rivés au sol. Elle chancela, pirouettant sur elle-même, à la façon des convulsionnaires. L'agitation devenant d'instant en instant plus violente, plus rapide, les os de l'ignoble créature craquaient par l'entrechoquement simultané des bras et des jambes dans un tourbillonnement qui semblait ne devoir jamais prendre fin. Et la Frochard, lancée comme une toupie, allait se heurter successivement à tous les angles du taudis, sans discontinuer de pousser des hurlements arrachés par la colère et la douleur. Terrifié par ce spectacle dont il n'avait pas encore eu d'exemple, Pierre avait essayé de se porter au secours de la misérable, dont la vue lui arrachait à présent des cris de pitié. Le pauvre diable oubliait toutes les tortures que lui avait fait subir cette mère marâtre. Il eût voulu pouvoir apporter un soulagement à ses souffrances innommées. Mais que faire pour mettre un terme à cette agitation qui devenait de plus en plus violente? Il s'élança pour saisir la mégère. Mais elle, se cramponnant au passage, à ce bras qui se tendait vers elle, entraîna le rémouleur avec cette force surhumaine que donne momentanément le feu de l'alcool. Pierre essayait en vain de se retenir à la table, à la corde servant de rampe mobile à l'escalier, aux murs même contre lesquels son corps venait se heurter avec violence, pendant cette effroyable danse de Saint-Guy dans laquelle il tournoyait irrésistiblement. Enfin, le malheureux parvint à se dégager, et n'écoutant que l'inspiration qui lui arrivait à l'improviste, il sortit précipitamment de la masure, courant implorer pour sa misérable mère le secours du docteur Hébert. À qui pouvait-il mieux s'adresser? Le charitable savant l'avait d'ailleurs autorisé à recourir à lui si l'occasion s'en présentait. Et tout en courant dans la direction de la demeure du médecin, Pierre se disait que celui-ci ne le refuserait pas de venir donner des soins à la malheureuse menacée de mort, ou tout au moins de folie furieuse. Il croyait trop en la bienveillance du docteur Hébert pour ne pas espérer qu'il aurait pitié de lui et qu'il écouterait ses supplications. C'est dans ces conditions d'esprit et l'âme bouleversée que le rémouleur vint frapper à la porte de l'hôtel du médecin. Il insista pour qu'on allât prévenir le docteur que c'était lui, Pierre le rémouleur de la rue de l'Oursine, qui demandait en grâce à lui parler pour quelqu'un qui allait mourir, faute des secours de la science. Monsieur Hébert donna l'ordre de l'introduire. En quelques mots prononcés d'une voix saccadée, haletante, le rémouleur le mit au courant. Le docteur fit avancer un carrosse de louage. Il y prit place, obligeant Pierre à s'asseoir à côté de lui. Et le véhicule partit dans la direction de la rue de l'Oursine. Quand Pierre eut refermé la porte du taudis, pour courir affolé chez le docteur Hébert, la Frochard entra dans une nouvelle phase de fureur. La mégère était tombée, la tête portant sur l'escabeau. Un cri de douleur s'était échappé de sa gorge. Cette chute sembla produire une réaction momentanée, car la Frochard s'écria « À moi ! Au secours ! À moi, Pierre !» Puis elle essaya de se lever. L'effort fut vain et la patiente retomba plus lourdement sur le carreau. Là, elle s'escrima en de nouveaux efforts, se traînant, cherchant à s'accrocher des ongles à quelque chose qui pût lui fournir un appui qui l'aida à se remettre sur ses jambes. Elle rampait comme un reptile, tout en hurlant, en exclamant des imprécations et des blasphèmes. Bientôt, la violence de l'effort inutile qu'elle avait fait provoqua un nouvel anéantissement. La misérable demeura inerte, les bras étendus. On eût pu la croire morte. C'était la période d'anéantissement après laquelle devait se produire un réveil accompagné de nouvelles agitations furieuses et d'horribles violences. La veuve du supplicié n'attendit pas longtemps ce réveil. Revenue de cette sorte de syncope qui la tenait inerte sur le sol, elle trouva tout à coup la force de se relever, et l'hallucination s'empara une fois encore de son cerveau. Pour cette misérable atteinte de folie alcoolique, l'aveugle, qu'elle martyrisait jadis, était toujours dans le galetas où elle l'avait enfermée, la privant de nourriture jusqu'à ce qu'elle eût consenti à mendier. Elle se disait, dégageant de lointaines pensées des ténèbres qui envahissaient son cerveau, que son Jacques allait venir et qu'il fallait préparer le souper. Alors, en titubant, elle s'approcha de la table où se trouvait ce qu'autrefois elle appelait son lustre, un bout de chandelle puante fiché dans le goulot d'une bouteille. Sa main, agitée d'un tremblement, fit le simulacre de dresser un couvert sur cette table où gisait renversée la bouteille qui avait contenu de l'eau-de-vie. Puis tout à coup elle dressa l'oreille, comme si elle eût songé à celle qu'elle appelait son rossignol. Elle eut un cri de rage, et tendant son poing fermé vers la porte du grenier, « Attends, gueuse » hurla-t-elle, « attends, je vais te faire pleurnicher, guenille. Attends-moi, je t'apporte ton dîner, canaille qui me vole le pain que j'y donne. » Saisissant alors, d'une main la bouteille vide, et de l'autre la bouteille qui servait de chandelier, la Frochard se mit en marche pour atteindre l'escalier. Mais elle chancelait. L'ivresse revenait plus violente que jamais. La mégère tournoyait, trébuchait, se heurtait. Soudain, elle prit un cri et lâcha les objets qu'elle tenait. La chandelle glissa au bas de ses jupes effilochées. Une langue de feu lécha l'étoffe humide qui grésilla lentement, dégageant une fumée puante. Puis le feu gagna le haut des jupes, communiquant l'incendie aux hardes. La Frochard se trouva bientôt entourée de flammes. Le feu commençait à lui mordre les chairs. La douleur dissipant tout à coup l'ivresse, la misérable créature comprit dans un retour subit de lucidité l'effroyable danger qu'elle courait. Elle poussait des cris de hyène et se démenait comme une possédée, appelant au secours. Les flammes augmentaient, activées par les mouvements violents de la folie. « Sauvez-moi ! Sauvez-moi !» suppliait la misérable en se tordant. Ses mains cherchaient à arracher les hardes en feu et rencontraient la flamme qui les dévorait. Les cheveux s'enflammant entourèrent cette hideuse tête d'un bandeau lumineux. La Frochard s'élança vers la porte qu'elle ouvrit. La voici dans la rue. Elle pousse des cris horribles et court, spectre enflammé, appelant au secours. Dans les masures dont les portes sont depuis longtemps fermées, on a entendu. Mais qui voudrait s'occuper de la veuve du supplicié? Chacun hausse les épaules en disant « C'est encore cette gueuse qui est saoule !» Et pendant ce temps, la misérable parcourt le quartier en hurlant. Cette fois, elle est parvenue à attirer l'attention. Quelques portes se sont ouvertes. Mais en voyant l'horrible tableau de cette femme tout en feu, personne ne veut s'approcher. On la fuit comme un danger. On s'éloigne avec horreur de cette créature éperdue qui peut communiquer le feu à ceux qui chercheraient à lui porter secours. Et les portes se referment. Toute cette scène s'est passée rapidement. La Frochard retourne sur ses pas. La voici de nouveau dans son taudis. La douleur l'a terrassée. Elle roule sur le sol, en proie à d'épouvantables convulsions. Et les flammes, qui n'ont plus de haillons à dévorer, s'attaquent maintenant aux chairs. Ce n'est plus bientôt qu'une masse informe, hideuse, qui se roule avec d'effroyables contorsions. Ce corps en feu est arrivé à proximité du grabat auquel il communique l'incendie. Par la porte demeurée ouverte, le vent s'engouffre, attisant le feu incandescent. Les flammes montent. Au bout de quelques minutes, toute la masure est en feu. Le corps de la Frochard achève de brûler au milieu de l'immense fournaise. Et dans cette rue de l'Oursine, les habitants demeurent indifférents à cet incendie qui fait rage sur une masure isolée. Il semble qu'on soit satisfait dans ce quartier d'être du même coup débarrassé de l'antre et des fauves. Car on ne doute pas que la Frochard et Pierre n'aient trouvé la mort dans l'incendie qui a détruit leur masure. Quand les agents de police et les soldats du guet, attirés par la nouvelle que le feu s'était déclaré dans le quartier de la Bièvre, arrivèrent sur le lieu du sinistre, il ne restait plus que des amas de décombres fumants. Le foyer de l'incendie était absolument circonscrit. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'à laisser le feu s'épuiser et s'éteindre faute d'aliments. Après cette alerte, les habitants du quartier refermèrent leurs portes sans accorder un regret à l'affrochard. Quant au pauvre Pierre, à peine eut-on pour lui un mouvement de pitié. « Après tout, se disait-on, commentant la triste fin du boiteux, ce n'était que le fils d'un supplicié. Le voilà mort. Tout est bien qui finit bien. » Quelques rares voisins qui connaissaient mieux le pauvre garçon s'apitoyèrent sur son sort, plaignant cet infortuné qui avait mené une existence de galérien et qui finissait par une mort horrible. Pour tous, comme on le voit, il n'était pas douteux que la mère et le fils n'eussent péri dans l'incendie qui avait, en moins d'une demi-heure, dévoré la triste masure habitée par la veuve du supplicié. Le docteur et Pierre arrivèrent quand déjà le quartier était retombé dans un morne silence. La rue de l'Oursine était déserte. Le carrosse s'étant arrêté à l'entrée de la rue, le médecin et son compagnon s'engagèrent à pied dans cette sombre voie boueuse dont les maisons basses étaient, ainsi que nous l'avons dit précédemment, très espacées et séparées par des terrains vagues. Ils marchèrent en silence. Le rémouleur n'osant dire les sombres pressentiments qui assaillaient son esprit. Le pauvre être ne se faisait guère illusion sur le sort qui attendait sa misérable mère. Quand il l'avait quittée, il se disait qu'il ne la trouverait peut-être pas vivante. Quant au docteur, très absorbé dans une préoccupation qui s'acharnait en lui depuis quelque temps, il ne venait au secours de l'affrochard que poussé par le sentiment d'humanité qui commande de secourir même les misérables, même les criminels menacés de mort. Les deux hommes arrivèrent ainsi à quelques pas de l'endroit où devait se trouver la masure. Mais là, ils s'arrêtèrent. Les émanations, provenant des décombres brûlés, les saisirent à la gorge. « Il y a eu un incendie près d'ici, » dit M. Hébert. Mais déjà Pierre avait tout compris. Et étendant le bras dans la direction où naguère encore s'élevait la demeure de l'affrochard, « Mon Dieu ! Mon Dieu ! » s'écria-t-il. « C'est chez nous ! Regardez, monsieur, la fumée sort de la maison !» Ce qu'il appelait la maison n'était plus représenté que par un pan de mur aux trois quarts écroulé et que couronnait une épaisse fumée noire et nauséabonde. « C'est fini, c'est fini !» sanglota le rémouleur. « Elle a mis le feu, et elle est morte là. Ah, mon Dieu, pourquoi suis-je parti ?» Il se lamentait, cloué sur place, tout son corps tremblait. Il n'osait plus avancer, de peur de découvrir le cadavre de sa mère au milieu des décombres. « Restez là !» commanda le docteur, et Pierre, obéissant, s'affaissa sur le sol, le visage dans ses mains. M. Hébert regarda pendant quelques secondes avec pitié ce fils qui pleurait une mère infâme. « Attendez-moi là, » dit-il d'une voix émue, « je vais m'informer. Il n'y a peut-être rien de désespéré. » Après avoir prononcé ces mots, il se dirigea vers les ruines fumantes. Une écœurante odeur de chair brûlée s'en dégageait. Le docteur ne s'arrêta pas devant les décombres. À 50 pas de là, il vit une bicoque dont les fenêtres mal jointes laissaient filtrer de la lumière. Résolument, il alla frapper à la porte. « Qui va là ?» grommela une voix partant de l'intérieur. « Ouvrez !» répondit M. Hébert. Et pour rassurer les habitants de la sordide masure, il ajouta « Ouvrez, j'ai un renseignement à vous demander. » La porte s'entrebâilla. Une tête d'homme apparut. Le docteur s'informa aussitôt. « Il y a eu un incendie, ici, près ?»
« Oui, peu de choses. Un chenil qui a flambé. »«
Et les personnes qui habitaient là ?»«
Grillées, comme le reste. »«
Vous dites ?»«
Que l'affrochard ne doit plus être pour le gardeur qu'un monceau de charbon, et son fils aussi. »«
Vous vous trompez, » dit M. Hébert. « Le fils n'a pas... »«
Il a flambé avec sa gueuse de mer, puisque nous ne l'avons pas vu sortir de la bicoque. »«
Quoi ? On n'a pas porté secours à ces malheureux ?»
« Lui, je ne dis pas, c'était le meilleur de cette famille de canailles et de criminels. Mais elle, une guenille de moins sur la terre !»
Le docteur Hébert allait peut-être pousser plus loin la conversation, mais la porte se referma aussitôt, tandis que l'homme lui criait.
« Ce n'est pas l'heure de déranger les gens pour ces fripouilles de frochards. Allez vous informer auprès du diable. Il n'y a que lui qui puisse dire ce qu'est devenue cette misérable mendiante. »
Le médecin se retira, vivement préoccupé. De tout ce qu'il venait d'entendre, il n'avait retenu qu'une chose, c'est que dans le quartier, on était persuadé que le rémouleur avait péri en même temps que sa mère dans l'incendie de la masure. « C'est la destinée qui le veut, » murmura-t-il comme répondant à une pensée qui lui arrivait à l'improviste. Et tout en s'en retournant pour retrouver Pierre, l'excellent homme ruminait toujours l'idée qu'il venait de concevoir et qui maintenant lui paraissait de plus en plus réalisable. « C'est cela.
C'est bien cela, mâchonnait-il entre ses lèvres et se parlant à lui-même. J'ai tout trouvé, et me voilà dispensé de combinaisons qui n'eussent pas été, peut-être, absolument pratiques. Il était sur le point d'arriver à l'endroit où il avait commandé au rémouleur de l'attendre. Avant de pousser plus loin et de parcourir la distance de quelques pas qui le séparaient encore de Pierre, il voulut réfléchir à ce qu'il répondrait quand le malheureux garçon allait nécessairement l'interroger sur les renseignements qu'il avait pu obtenir. Le docteur Hébert était un bourru bienfaisant, on le sait. Mais ici, il le reconnaissait, ce n'était pas le cas d'être bourru, même pour se donner une contenance. Il allait se trouver en présence d'une de ces infortunes qui ont besoin qu'on les soulage doucement par de bonnes paroles. Quand il se trouva en face de Pierre, celui-ci était plongé dans le plus profond désespoir. Il sanglotait et des larmes abondantes inondaient son visage. Il n'avait pas entendu venir le médecin. Ce fut M. Hébert qui manifesta sa présence par ces mots. « Mon ami, partons, partons tout de suite. Nous n'avons plus rien à faire ici. » Et comme le jeune homme s'était levé tout tremblant et demeurait surpris et bouleversé par cette entrée en matière, M. Hébert ajouta en baissant la voix. « Il ne reste plus rien. Tout est brûlé. »«
Tout ?»
balbutia le rémouleur.
« Et ma mère ? Qu'est-elle devenue ? Où est-elle ? Quelqu'un a-t-il eu pitié d'elle ?»
Sans répondre, le docteur Hébert saisit son interlocuteur par le bras et l'entraîna vers la voiture.
« Montez !» dit le médecin, ouvrant la portière.
« Non !» répondit Pierre. « Je veux savoir au moins ce qu'elle est devenue. » Le docteur, sans lui répondre, le poussa vigoureusement sur la banquette et donna au cocher l'ordre de marcher. Et quand le carrosse eut roulé pendant quelque temps, il dit au rémouleur « Pierre, vous ne retournerez jamais rue de l'Oursine. Tout est fini. » Puis il ajouta « Qu'y feriez-vous maintenant que la bicoque n'est plus debout ? Je vous trouverai une autre demeure où pendant quelque temps vous pourrez vous remettre des émotions douloureuses que vous avez subies depuis quelques mois. » Pierre eût voulu pouvoir remercier celui qui se déclarait ainsi son protecteur. M. Hébert ne lui en laissa pas le temps. « J'exige, continua-t-il en donnant à sa voix un ton de fermeté, que vous reconnaissiez, par une obéissance absolue, ce que je veux, ce que je vais faire pour vous. » Pierre joignit les mains. « Monsieur, dit-il, je serais bien misérable si je ne me montrais pas reconnaissant de votre bonté, de votre générosité. Dites ce que vous ordonnez que je fasse. Je suis prêt à vous obéir. » C'était tout ce que voulait M. Hébert. « C'est bien, dit-il, et d'un ton grave, il ajouta. « Mon ami, votre mère n'est plus. »«
Ma mère !»
Pierre avait poussé cette exclamation d'une voix désespérée. Un long tressaillement agita son corps, puis il laissa tomber son visage dans ses mains. Pendant ce temps, M. Hébert ajoutait « Elle est morte dans une terrible agonie, comme si Dieu eût voulu lui faire expier en ce monde, avant de l'appeler devant son suprême tribunal, les fautes, les crimes dont la malheureuse s'était souillée. Et désormais, il n'existe plus aucun Frochard. » Le rémouleur avait levé les yeux et regardait son interlocuteur avec étonnement. « Je répète ce que je viens de vous dire, » fit M. Hébert. Il ne doit plus exister en ce monde aucun représentant de la famille Frochard.
« Et moi ? Moi ?»
balbutia le pauvre garçon. « Ne suis-je pas toujours le fils du supplicié ? Il faut que vous cessiez de l'être, ou du moins d'être connu comme tel. »«
Hélas, monsieur, qui pourrait l'empêcher ?»
Et tristement, « Est-ce que ce n'est pas la vérité ? J'ai longtemps essayé de me faire pardonner de n'être qu'un malheureux dont le père avait péri sur l'échafaud. J'ai travaillé tout enfant dans l'espoir de faire oublier de qui j'étais né. Efforts inutiles, tout le monde se détournait de moi. J'étais méprisé, comme si j'eusse été le coupable, le criminel dont le souvenir pesait sur nous tous. « Vous vous trompez, dit le docteur, tout le monde ne vous méprisait pas. Je connais une personne qui vous tenait pour un bon et brave cœur, et qui n'a cessé de se rappeler que vous l'avez prise en pitié quand elle souffrait de vie épouvantable à laquelle on l'avait condamnée. Que vous auriez voulu pouvoir l'arracher des mains de celle qui abusait de la cécité de la malheureuse enfant pour en faire une martyre. Pour celle dont je vous parle, mon ami, vous étiez autre chose que le fils du supplicié Frochard. »
Oh, c'est qu'elle ne savait pas, interrompit le jeune homme.
Eh bien, il faut qu'elle ignore toujours l'affreuse vérité, et je m'en charge.
Vous, monsieur ? Mais à quoi bon, puisque je ne la reverrai plus jamais ?
Qui sait ?
Que voulez-vous dire, monsieur le docteur ?
Une vie nouvelle va commencer pour vous. Si j'ai voulu vous venir en aide aujourd'hui, c'est que j'étais décidée à m'occuper sérieusement de votre avenir. »
Pierre ne savait plus que penser de cette sollicitude pour sa misérable personne. Il voulut remercier son bienfaiteur, mais il ne trouvait pas de mots capables d'exprimer tout ce qu'il ressentait. Ce que lui annonçait M. Hébert concernant l'aveugle le troublait jusqu'au fond de l'âme. La possibilité de voir se réaliser son rêve de chaque jour lui apparaissait vaguement. Quoi ? Il se pourrait qu'il retrouvât sa chère protégée, cet ange auprès de laquelle, lui, misérable déshérité de la nature, il avait éprouvé des moments de joie secrète dont il n'osait s'avouer la cause. Il entendait encore la voix qui autrefois lui parlait avec tant de douceur. Il reverrait enfin celle que le hasard avait un jour placée sur son chemin pour le réconcilier avec la vie. Celle dont la seule présence avait amené sur ses lèvres ces paroles d'espérance et de consolation. « Il me semble que je suis moins seule sur la terre. » C'était donc par la volonté de la Providence qu'il avait fini par découvrir la maison hospitalière où Louise avait trouvé des protecteurs. Ah, si tout cela était bien réel! S'il était vrai que le docteur eût formé le projet de se charger de son avenir! Et pourquoi en serait-il autrement? Quel motif avait-il de douter de la parole de M. Hébert? Celui-ci, après tout, ne lui devait ni encouragement ni consolation. C'était donc une compassion bien sincère qu'il éprouvait pour le pauvre Pierre, un intérêt bien réel qu'il ressentait pour lui. Tout à coup, le rémouleur fut tiré de ses réflexions. Le docteur avait ouvert la porte pour parler au cocher. Puis, revenant se placer à côté de Pierre, il lui dit « Après mûre réflexion, mon ami, j'ai décidé que ce ne sera pas dans mon hôtel que je vous donnerai l'hospitalité. Il est inutile, dans l'intérêt de votre avenir, que mes gens soient initiés à votre passé. » Le rémouleur écoutait, rempli d'étonnement. Il eût bien voulu interroger son bienfaiteur, mais le respect lui fermait la bouche. Ce fut M. Hébert lui-même qui se chargea de le renseigner sur ce qu'il désirait savoir. « J'ai donné l'ordre au cocher, dit-il, de nous conduire à l'hôpital Saint-Louis. Vous passerez quelques jours là, en attendant que j'aie pris une décision. » Le véhicule avait rapidement pris la direction de l'hôpital. Lorsqu'il s'arrêta devant le portail, Pierre voulut s'élancer. Mais le docteur l'arrêta en lui disant « Attendez-moi ici, je vous enverrai chercher. » Le rémouleur se renfonça alors dans la voiture, de plus en plus surpris. Il y avait à peine 10 minutes que Pierre attendait quand le portier de l'hôpital se présenta à lui. « Veuillez me suivre, mon garçon, » dit-il, et il conduisit Pierre dans le cabinet de consultation où se trouvait M. Hébert. En voyant arriver son protégé, que l'émotion faisait boiter encore plus bas que d'habitude, le docteur lui dit avec un bon sourire. « Cette jambe-là te gêne terriblement, mon ami ?»« C'est vrai, monsieur le docteur.
Eh bien, nous tâcherons de la redresser un de ces jours. »«
La redresser ?» dit Pierre au comble de l'étonnement.
« Oui, oui, et j'ai à ton sujet de bien autres projets. Mais pour l'instant, il faut te contenter, mon ami, de souper un peu, de dormir beaucoup et d'espérer des jours meilleurs. »
Le rémouleur essuya une larme qui coulait de ses paupières.
« Des jours meilleurs » soupira-t-il.
Mais M. Hébert s'écria d'un ton d'autorité. « Ce que je veux avant tout, c'est que tu ne pleures plus. » Puis s'adressant au portier. « Vous garderez votre pensionnaire pendant quelque temps. Je le reverrai bientôt. Je désire que vous lui donniez une chambre dans votre logement même. »
« Cela sera fait, monsieur le docteur. Que vous le nourrissiez convenablement. Absolument comme moi. » « Ma femme et mes enfants, et que vous lui procuriez tout de suite quelques hardes pour remplacer celles qu'il porte. »«
Vous serez obéi, monsieur le docteur, » répondit le concierge.
« À bientôt, Louis Raymond, » dit alors le docteur en frappant familièrement sur l'épaule de Pierre.
« Louis Raymond ?» balbutia celui-ci au comble de l'étonnement.
« Eh oui, » dit le docteur, « n'est-ce pas ton véritable nom ?» Et tout bas, il ajouta. « C'est celui qui remplacera désormais le nom du fils du supplicié. » Et Pierre, de plus en plus stupéfié, regardait le docteur et demeurait muet. Sur un signe de M. Hébert, le concierge l'emmena chez lui. Le docteur sortit à son tour et remonta dans le carrosse. C'est à partir de ce jour que Louise n'avait plus entendu sous ses fenêtres la voix du rémouleur. À partir de ce jour aussi, la pauvre enfant devint rêveuse, plus qu'il ne convenait à celle qui, après avoir retrouvé son amie d'enfance, devait n'avoir plus rien à désirer en ce monde. La comtesse de Lignières ne tarda pas à s'émouvoir de la tristesse qui, chaque jour, se manifestait plus sombre chez sa fille bien-aimée. Elle interrogea maternellement Louise.
« Je n'ai rien, madame la comtesse, » déclara l'aveugle. « Que puis-je désirer de plus quand vous me comblez de bonté ?»
Et Louise s'efforça de paraître moins mélancolique lorsqu'elle se savait en présence de Diane. Mais il n'était pas facile de tromper l'œil vigilant d'une mère comme madame de Lignières. Elle se promit d'attirer l'attention du docteur Hébert sur le cas particulier qui se présentait.
« Docteur, » lui dit-elle un jour, « j'attendais avec impatience votre visite. »
« Pas pour vous, assurément, madame la comtesse, » interrompit M. Hébert, « car vous avez singulièrement surmonté la maladie mystérieuse qui consumait lentement vos forces. C'est miracle de vous voir revenu si rapidement à la santé. Aussi, n'est-ce pas en effet pour moi que je désire vous consulter ?»«
Pour qui donc, alors ?»«
Mais ne le devinez-vous pas ?
Pour notre cher aveugle ?»«
Patience, madame la comtesse. Ici, nous devons procéder avec la plus grande prudence. Je vous ai promis que je tenterai une opération, mais le moment n'est pas encore venu d'en fixer le jour. Je dois même vous prévenir que ce ne sera pas avant plusieurs mois sans doute.
Que voulez-vous, madame la comtesse? Nous ne pouvons pas aller aussi vite que nous le désirons. »
Et le docteur, prenant le ton enjoué, ajouta. « Je vous ai promis que je ferai tout ce qu'il serait humainement, scientifiquement possible de faire, mais que j'espérais la collaboration de celui dont la toute-puissance est au-dessus de la volonté humaine et de la science. Il faut attendre, madame la comtesse, et espérer. »
Diane l'avait écoutée sans interrompre, mais quand le médecin eut cessé de parler, elle lui dit « Je sais, docteur, tout ce que je puis attendre de votre expérience et de votre habileté. Si j'en crois mes pressentiments, notre cher aveugle recouvrera la vue. Mais ce n'est pas de la cécité de Louise que je voulais vous parler aujourd'hui, mais bien de sa tristesse. Une profonde tristesse que j'ai remarquée chez elle et qui m'inquiète.
« Oh oh !» fit le docteur Hébert. « Voilà, en effet, de quoi inquiéter une personne qui, comme vous, s'y connaît, en fait, de tristesse. »«
Docteur,
oui, je comprends. Vous n'aimez pas qu'on vous rappelle cela. Cependant, qui mieux que vous peut savoir qu'on finit un jour par surmonter les mélancolies les plus prolongées ? Il suffit quelquefois d'un hasard. »
La comtesse demeura silencieuse pendant quelques secondes. Puis, relevant la tête,
« Cher docteur, » prononça-t-elle d'un ton suppliant, « je vous prie de me rassurer sur l'état de ma protégée. Je vais vous laisser seule avec elle. Interrogez-la. Peut-être vous dira-t-elle ce qu'elle éprouve. »
« Inutile, madame la comtesse. »
« Vous refusez ?»«
Pas précisément, mais j'ai un moyen plus sûr que d'interroger mademoiselle Louise pour savoir ce qu'elle pense, si elle éprouve quelque secret chagrin. »
« Je ne comprends pas. »
« Mon Dieu, c'est d'interroger son amie. »«
Henriette ?»«
Oui, seulement il faut savoir s'y prendre adroitement, et je me charge de confesser votre future nièce. »
Diane avait appelé Louise qui se tenait dans la pièce voisine. « Venez, mon enfant, » dit-elle en prenant la main de la jeune fille. « Il y a là le docteur Hébert qui veut regarder attentivement vos yeux avant de commencer le traitement. » Le médecin s'était porté au-devant de l'aveugle. « Voyons ces grands yeux-là. » fit-il en conduisant Louise à un fauteuil. « Laissez-moi bien regarder. »«
Oh oh !» fit-il tout à coup d'un ton grondeur. « Voilà bien du nouveau. »«
Qu'y a-t-il ? » s'informa Diane avec anxiété.
« Il y a, madame la comtesse, il y a que ces deux grands yeux-là ont pleuré. »«
Pleuré ? » s'exclama madame de Lignières. Louise gardait le silence.
« Beaucoup pleuré !» ajouta le docteur.
L'aveugle eut un léger frissonnement, mais elle réprima aussitôt l'émotion qu'elle avait ressentie.
« Ces larmes-là, dit le docteur, ne se renouvelleront plus, je l'espère. Quel sujet de tristesse aurait cette chère enfant? Quel autre sentiment pourrait-elle éprouver que la reconnaissance, le respect, l'affection pour ses généreux bienfaiteurs ?»«
Pour tous vos bienfaiteurs, s'empressa d'ajouter madame de Lignières, mais surtout pour le bon docteur qui va vous soigner et vous rendre la vue, mon enfant. »
Louise avait pâli. Elle voulut prononcer quelques mots, mais elle ne parvint qu'à murmurer en balbutiant
« Merci, monsieur le docteur, merci. »
L'épreuve avait assez duré, estima monsieur Hébert, pour une première expérience. Et comme Diane l'accompagnait jusqu'au seuil, il lui dit tout bas
« J'ai lu dans les yeux de cet enfant. Je lirai bientôt dans son cœur. »